that's an audio check for the scribes.
Alors, vérification audio pour les scribes.
Thank you.
Okay, welcome everyone.
C'est Heather Dryden qui prend la parole. Bon après-midi, soyez tous les bienvenus. Nous commençons donc la réunion. Nous avons reçu une liste proposée de questions abordées et d'orateurs. Je vous prie de faire circuler cette liste à toute la liste du GAC ainsi que la présentation. Parce qu'il y a une présentation faite dans des diapositives, dans des transparences. Et entre-temps, nous allons écouter la contribution du GAC par rapport à certains thèmes. Je vais le mentionner pour que ce soit clair. Ce que nous voudrions pouvoir aborder pendant cette séance avec le GAC, les points qui nous semblent importants. Et nous allons ensuite avoir l'information supplémentaire que nous aurons reçue. Nous allons la faire circuler au sein du GAC et nous allons aussi présenter la proposition pour la structuration de la séance de cet après-midi. De façon très brève, je veux dire que les thèmes que nous avons identifiés se rapportent aux différents modèles d'affaires existants sur le marché. Il y a celui des bureaux d'enregistrement, les registres et les revendeurs, ainsi que les types de bureaux d'enregistrement qui peuvent aller depuis les personnes privées jusqu'aux compagnies, ainsi que les modèles qui sont basés sur les chaînes de valeur intégrées. Nous avons reçu une proposition des registres pour s'entretenir avec le GAC à propos des différents marchés. Comme les marchés directs vers les consommateurs et la concentration des CCTLD sur ces marchés. Dans la perspective du GAC aussi, nous nous intéressons à savoir comment fonctionne l'industrie des noms des domaines et ce que l'ICANN peut faire pour réglementer ou réguler cette industrie. En particulier, ces rapports concernant les revendeurs. Nous avons ajouté Enfin, nous avons clarifié davantage tout cela. Ce qui comprend les contrats directs d'ICANN avec certains participants de l'industrie qui ont des rapports indirects avec d'autres membres de l'industrie entre les registres et les bureaux d'enregistrement et les vendeurs sur le marché. La pratique de l'ICANN de ne pas réguler des points tels que, par exemple, ce qui concerne les fournisseurs de services proxy ou de confidentialité. Je voudrais donc demander que l'on projette sur l'écran la liste des orateurs et des questions abordées.
Okay, so
bien, c'est Heda qui prend la parole. Voilà donc l'ordre du jour qui a été présenté au GAC. Pourriez-vous nous présenter cette proposition? Kurt, je vous remercie vous tous. C'est Kurt Blitz qui prend la parole. Le GAC a été très généreux de nous céder tout ce temps pour faire cette présentation dans le cadre de son programme. C'est une question vraiment très riche. C'est pourquoi nous avons plusieurs orateurs qui ont différentes expériences. Nous allons faire tous des présentations très courtes parce que nous savons que l'échange d'informations le plus significatif sera fait à la fin par les questions et réponses. Voilà notre idée. Et nous voulons parler, dans la perspective que le GAC nous a présentée, de notre représentation sur le marché. Nous allons vous décrire très brièvement les modèles généraux de GTLD et CCTLD. C'est Kim Davis qui va en parler. Ensuite, il y aura une description des GTLD, des modèles de registre des GTLD. Ken Hansen, qui n'est pas encore arrivé, s'il peut, il va nous parler. Ensuite, Enfin, il va nous parler de San Francisco et de cette région et de ce domaine. Ensuite, il y aura André Philippe qui va décrire les modèles de registre de CCTLD. Tim Cole, nous, avec Mathieu, ils vont nous parler très brièvement du cycle de vie des noms de domaine et des GTLD, comment ils sont exploités, comment ils survivent et ce qui se passe lorsqu'ils arrivent à échéance. Il y aura ensuite une description sur le cadre des GTLD au point de vue des bureaux d'enregistrement. C'est Matt Serling de Mac Monitor et Ben Anderson du groupe NBT et Jeff Eichhaus de Demand Media. Ils vont parler de façon différente d'enregistrer un nom de domaine au moyen d'un revendeur ou un service de confidentialité au proxy ou par un bureau d'enregistrement, les différents services, les différents modèles, ce qui se passe lorsqu'un nom de domaine arrive à expiration, enfin expire, s'il peut exister ou enfin s'il peut revenir, disons, pour être encore exploité ou pas. Et ensuite, ce qui va se passer avec le nouveau GTLD et comment cela peut avoir une incidence sur certains aspects ou comment l'avenir pourrait changer par l'introduction des nouveaux noms de GTLD. Je ne sais pas si Heather veut commencer la présentation et Kim va ensuite nous en donner un aperçu général. C'est Heather qui prend la parole. Merci, Kurt. Il me semble qu'il n'y a pas ici de présentation sur la fonction de l'ICANN par rapport au contrat ou par rapport à l'engagement, par rapport à certains acteurs du marché. Est-ce que c'est un point que nous pourrions inclure dans l'ordre du jour? Oui. Tim Cole va parler de tout ce qui se rapporte au procès d'inscription des bureaux d'enregistrement et comment ils sont accrédités et ils ont un contrat avec ICANN pour pouvoir vendre les noms de domaine. C'est Heda qui prend la parole. Donc, cela se rapporte à l'aspect de conformité du rôle de l'ICANN. Oui, c'est Code qui le dit. Oui, nous devons partager le microphone. Oui, et Kim Davis va vous parler, vous décrire certaines différences existantes entre les GTLD et IANN. Un contrat avec l'ICANN et CCTLD qui n'ont pas de contrat avec l'ICANN. C'est Heda qui prend la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on voudrait céder la parole à Kim. Oui, voilà, c'est Kim qui a la... Bonjour à tous.
Okay. So as
comme Joachim l'a dit, l'idée est ici de vous donner un aperçu général du fonctionnement du marché, des divisions qui existent dans ce marché. Et il y aura des orateurs qui vont vous donner un détail plus grand des participants, de certains participants sur le marché. En premier lieu, il y a les bureaux d'enregistrement, ce sont ceux qui doivent maintenir les bases de données dans un TLD. Les registraires sont ceux qui recherchent un nom de domaine. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans cette industrie. C'est eux qui sont responsables des opérations entre les bureaux d'enregistrement et les registraires. Les bureaux d'enregistrement concernent l'interface commerciale pour l'exploitation des registres. Ensuite, il y a les revendeurs. Il y a des entreprises qui font du web hosting et d'autres. Et bien sûr, il y a les utilisateurs des noms de domaine. Par rapport au modèle de registre, dans la prochaine image, vous allez voir toute une gamme de modèles de registre, mais le plus ouvert que nous connaissons, c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui reçoit un accueil sans aucune restriction. Il peut y avoir un droit de registre, mais sans restriction. La première personne donc qui enregistre un nom de domaine conserve ce nom de domaine. Nous avons différents niveaux de restriction sur la manière dont ces noms de domaine sont alloués. Nous pouvons avoir un nom de domaine qui vise un segment spécifique, par exemple les TLD parrainés. Il y en a d'autres qui vont dans un segment spécifique, mais qui ont beaucoup de restrictions en ce qui concerne les politiques de mise en œuvre. Ce qui se passe bien des fois avec les CCTLD, c'est que l'enregistrement est limité à un pays spécifique. Il se peut qu'il y ait une présence locale ou il se peut qu'il s'agisse d'une entité locale enregistrée dans ce pays en particulier. Cette matrice, c'est quelque chose que nous avons établi il y a quelques années. Mais je pense qu'il s'agit toujours d'une bonne image pour montrer la diversité existante en ce qui concerne les TLD sur le marché. Ce qui apparaît dans la partie supérieure concerne le niveau de participation de l'ICANN dans la gestion d'un TLD en particulier. L'ICANN participe, comme nous le voyons ici à gauche, sur la manière de gérer les TLD. Et nous allons à droite laisser ces TLD sans documentation, sans rapport documenté avec l'ICANN. Au milieu, il y a d'autres types, les TLD patronnés ou parrainés, qui sont maintenant nouveaux TLD. Il y a des contrats avec l'ICANN qui se rapportent à la politique et la communauté à laquelle ils se rapportent. Nous avons les CCTLD qui ont formalisé un contrat avec l'ICANN. Vous savez que l'ICANN ne se servait pas de la même approche que nous utilisons à l'heure actuelle. Donc, certains CCTLD originaux n'avaient pas de rapport écrit, il n'y avait pas de contrat formel avec l'ICANN. Il y a ensuite les CCTLD qui ont enfin formalisé un instrument lié au programme de responsabilité. Cela pour les rapports entre les CCTLD et l'ICANN. S'il y a ce contrat, il y a des engagements de l'ICANN et des engagements des CCTLD, mais cela n'est pas aussi contraignant qu'un contrat total ou qu'un contrat complet. Cela n'a pas le même niveau que les CCTLD et GTLD. Ce que nous voyons ici, c'est que même s'il y a ces différents niveaux de responsabilité de participation de l'ICANN, en passant des GTLD aux CCTLD sans documentation, cela n'implique pas une modification dans la perception de l'utilisateur pour savoir si le domaine est restreint ou pas. Il y a des GTLD qui ne sont pas restreints, comme par exemple .com, .net. Il y a des CCTLD qui ne sont pas restreints, comme .tk, .tv. Et il en va de même pour certains GTLD qui sont vraiment très restrictifs. Il y a donc une très forte diversité dans les rapports existants entre les TLD et l'ICANN et la manière dont les gens perçoivent la restriction par rapport à un domaine déterminé. Nous avons donc un aperçu général. Mes collègues vont vous donner ensuite davantage de détails dans le reste des présentations. Je crois que dans la prochaine image, vous pouvez voir ce que l'on dit sur les registres. Je ne sais pas si Ken Hansen est arrivé. Oui. Donc, je lui cède la parole. Ces diapos se rapportent plutôt au TLD générique. Dans la partie supérieure du graphe, vous voyez le rapport existant entre les registres, les bureaux d'enregistrement et les revendeurs. Et les registres, selon le type de TLD, ou du bureau d'enregistrement, ou du bureau d'enregistrement du gros ou du revendeur. Bon, cela dépend des registrants. Les registres génériques fournissent à l'heure actuelle des modèles. Et cela se rapporte au système d'enregistrement partagé, à l'enregistrement du DNS qui est lié au DNS qui apparaît sur la base de l'infrastructure du DNS. Cette infrastructure du DNS peut être exploitée par le registre ou bien faire fonctionner cela par outsourcing avec un tiers. Il y a aussi le WHOIS pour pouvoir envoyer l'information du registraire au WHOIS. Nous parlons aussi des clients, des rapports et des soutiens d'IDN et d'IPv6 qui concernent les conditions pour les nouveaux registres qui sont demandés. Il y a une structure des prix parce que c'est les registres qui fixent ou qui déterminent les prix par an. Les revendeurs déterminent le prix de détail pour les registrants. Et il y a ensuite toute la partie des marques. Il y a un prix de gros en général pour la phase Sunrise du lancement des nouveaux GTLD qui se rapporte à la charge qui est faite pour l'enregistrement ou à la charge qui est perçue par l'enregistrement. Et ensuite, il y a les registres qui ont un nombre limité de 1 ou 2 caractères qui doivent être approuvés par l'ICANN avant d'être lancés. La plupart des registres, avec l'approbation du lancement sur le web, sont soumis à un processus comme je l'ai dit tout à l'heure. Les détaillants déterminent la technologie et l'infrastructure. Là, il y a 2 modèles fondamentaux que nous recherchons dans les nouvelles demandes de TLD. Les registres et les parties contractantes de l'ICANN créent et exploitent leur propre structure de registre. Il y en a d'autres qui décident de travailler par externalisation à d'autres fournisseurs de services d'enregistrement. Les parties qui établissent des contrats avec l'ICANN et qui externalisent leurs services de registre continuent bien sûr à avoir des responsabilités. Concernant le marketing, les canaux de distribution et tout ce qui se rapporte à la distribution et à la commercialisation. Il y a 2 types de marketing. Un marketing de sensibilisation et une autre de marque pour que le marché sache qu'il y a une marque disponible, un TLD disponible. Et il y a un marketing qui apparaît dans les canaux de registre et qui est offert au bureau d'enregistrement et qui est ensuite envoyé comme une caractéristique ou bien on soutient ce TLD avec un certain type d'engagement. Voilà une vision de très haut niveau des types de GTLD. Bien sûr, ce que nous connaissons le mieux sont les .com, .biz, .info. En général, il s'agit de mots tirés du dictionnaire ou des industries spécifiques qui sont enfin généralement ouvertes, mais qui peuvent faire l'objet de restrictions. La plupart du temps, la distribution est assez large pour beaucoup de bureaux d'enregistrement. Cela dépend bien sûr du type de TLD et de la demande existant pour ce TLD particulier. Il y a ensuite des TLD de marque liés à des programmes qui concernent en général des noms d'entreprises, des noms de produits et des marques de services. Beaucoup de marques ont demandé de mots génériques. Il y en a certaines qui sont très restreintes. Cela comprend des noms de services qui ont un bureau d'enregistrement de services, même si, malgré le fait que l'ICANN demande que tout TLD générique soit disponible au moyen de tout TLD accrédité. En général, il y a un seul bureau d'enregistrement, qui est la marque elle-même, qui choisit le bureau d'enregistrement où il veut enregistrer son domaine. Et ils sont accrédités s'il n'y en a pas d'autres qui sont accrédités. En général, il s'agit de bureaux d'enregistrement d'un seul TLD. Il y a d'autres domaines géographiques qui se rapportent au code de pays et ils sont plutôt liés aux zones géographiques qui peuvent être ouvertes comme les CCTLD qui sont parfois ouverts. Bien des fois, cela peut être aussi très restrictif. Ils peuvent être très restreints pour des entreprises, des organisations ou pour ceux qui habitent une région géographique particulière. Cela concerne bien des fois une politique de lien. Ensuite, nous avons les TLD communautaires. Vous les avez parfois appelés des TLD parrainés, .travel, .coop. Point musée, ils sont liés à des critères d'enregistrement. Les registres demandent un certain type de procédure pour pouvoir réaliser l'enregistrement. Un point nouveau de ces GTLD, qui ont quelque chose d'autre qu'un intérêt commercial en vue, c'est que ces GTLD essaient d'avoir une cause comme point green ou comme point éco. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire un point HIV, par exemple. Il s'agit en général des entités à but lucratif. Il y en a d'autres à but non lucratif. C'est donc une vision à un niveau assez élevé. Bien sûr, il y a d'autres modèles. Et au fur et à mesure que l'on verra apparaître cela sur le marché, il y aura une évolution qui se produira. Est-ce qu'il y a des questions?
Heather prend la parole. Merci de votre présentation. Il y a des demandes de parole. Kenya, Allemagne. Et puis nous continuons pour pouvoir prendre les questions. Mais l'Allemagne a la parole. C'est l'Allemagne qui parle. Merci de la présentation qui a été très intéressante. Pouvez-vous revenir en arrière une diapo, s'il vous plaît? Au début, il est intéressant de voir qu'il y a des possibilités de vendre des noms premium et que des fois, il pourrait y avoir une vente aux enchères. Moi, je me demande, au cas d'une enchère, les noms premium, c'est-à-dire, comment on les octroie? Et je voudrais savoir la différence entre le bureau d'enregistrement et le registre. Comment établissez-vous le prix? Parce que normalement, le registre, c'est celui qui a un prix fixe pour tous les types de domaines. Et dans ce cas, il est probable que le registre reçoive au moins une partie de ce revenu supplémentaire. Voici ma première question. Ken Hansen prend la parole. Je vais dire comment ça fonctionnait auparavant. Des noms à un ou deux caractères. Les acheteurs potentiels, en général, c'était les bureaux d'enregistrement qui participaient C'est-à-dire, et on donnait la publicité à cette enchère en général. On relaisait une plateforme d'enchères où il y avait plusieurs fournisseurs qui faisaient l'offre. Le prix plus bas a gagné, on payait le registre. Cette personne qui avait le meilleur prix a reçu un code. Un code d'information. Et alors là, en général, ce que l'on faisait, c'était un transfert au bureau d'enregistrement pour qu'il paie le prix d'enregistrement pour le TLD suivant le prix établi par le bureau d'enregistrement. Donc, dans des enchères d'un nom premium, les revenus étaient partagés entre la personne qui organisait les enchères et le registre. Merci de la question et de la réponse, dit Heather. On peut continuer avec les présentations, s'il vous plaît. André et Philippe, qui vont faire l'autre présentation des télés. André Philippe prend la parole. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, les GTLD sont différents, vraiment. Et les CCTLD participe aussi de manière inverse. Pour les CCTLD, disons que les GTLD sont un problème. En partie, parce que, comme Ken l'a montré, les CCTLD ne sont pas régulés par l'ICANN. Il y en a qui ont des contrats, qui ont passé des contrats avec l'ICANN, mais il y en a d'autres qui sont en dehors du cadre de responsabilité. Et tout cela pour vous rappeler que des fois, on peut penser comment les CCTLD peuvent résoudre des controverses, etc. Les CCTLD sont rapportés dans certains pays. Il y en a qui respectent la juridiction nationale. Et quelques CCTLD ont une liste noire de noms qui ne peuvent pas être enregistrés pour des raisons historiques ou d'autres. Et il y a beaucoup de points spécifiques par rapport aux TLD. Les CCTLD, en général, ont leur propre système d'accréditation pour les bureaux d'enregistrement. Alors, ils peuvent avoir des conditions très différentes. Certains registres peuvent continuer avec l'accréditation, peuvent respecter l'accréditation de l'ICANN, mais il ne s'agit pas là d'une règle générale. Il existe différentes conditions, différents critères. Et l'autre chose que l'on peut signaler des registres, on peut parler de .di, .cz. Il peut y avoir des sous-domaines directs et il y a des pays qui utilisent d'autres niveaux comme le Brésil ou les États-Unis. Et c'est donc, le Royaume-Uni. Il y en a qui font même une combinaison. On peut faire l'enregistrement en deuxième ou en troisième niveau. Et alors là, c'est peut-être différent. C'est donc compliqué d'établir ça simplement. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Si l'on parle des modèles, il y a des registres à but non lucratif. Je crois qu'il s'agit de la plupart, mais je n'en suis pas certain. Et il y a d'autres registres qui sont des sociétés à but lucratif et qui veulent gagner de l'argent, bien entendu. La base légale, la structure de la société, pour des questions historiques, peut-être différentes. Il y a beaucoup de CCTLD qui ont démarré dans le domaine académique. John Postel a contacté des gens qui étaient dans ce domaine pour pouvoir opérer les domaines. Et comme l'Internet est né au sein du milieu universitaire, il a trouvé beaucoup de gens dans les universités qui pouvaient faire ce travail. On a travaillé avec des universités provinciales, etc. On travaillait avec des sociétés de recherche, etc. Dans beaucoup de pays, il y a des communautés locales ou des sociétés qui ont créé des associations qui administrent les domaines. Et il y a encore d'autres manières de le faire, comme par exemple des fondations, etc. Dans certains pays, l'opération des TLD a été transférée à des institutions gouvernementales. Alors, il y a beaucoup de ces TLD qui sont sous la responsabilité des gouvernements. Et comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de registres qui appartiennent à des sociétés privées. Et donc, des sociétés particulières, quoi. Il n'y a pas de participation du gouvernement dans ces cas-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quelle est la liaison avec les gouvernements locaux? Certains pays ont des lois locales, des lois nationales liées au domaine. Je crois que la France en est un bon exemple. Il y a beaucoup de registres qui essaient de trouver une solution à cette question en faisant des accords avec le gouvernement, en passant des accords avec le gouvernement. Ces accords peuvent être différents. Par exemple, nous, à CZ, nous avons un contrat, un accord d'une page, mais il y en a d'autres qui peuvent être bien plus longs. Et puis, il y a d'autres sociétés qui n'ont aucun rapport avec le gouvernement. Elles n'ont pas des relations amicales et cela peut créer des problèmes parce que on voit des cas de redélégation. Un cas spécial, c'est les CCTLD qui travaillent sous licence, je ne sais pas quel est le mot approprié, mais qui opèrent en tant que CCTLD. Par exemple, le Point TV. Il s'agit là d'un domaine de Tuval, mais qui est utilisé par plusieurs sociétés qui exploitent la télévision dans les différents pays. Les modèles sont différents. Ils sont différents partout. Alors, nous avons choisi cette région où le CSNIC a eu... On a établi un accord avec le gouvernement. La Slovaquie, notre voisin, un registre exploité par une organisation privée à but lucratif. En Pologne, il existe encore un autre modèle. Et définitivement, il n'y a rien qui puisse définir tous les différents CCTLD. Compte tenu que les CCTLD ont plusieurs critères de l'égalité. On peut choisir donc des critères d'éligibilité, pardon. Par exemple, point CZ, point TV, mais d'autres ont des restrictions techniques ou administratives. Il y en a qui exigent la présence locale, comme le cas de la Slovaquie. C'est quelqu'un qui, ayant cette nationalité qui doit s'enregistrer. Il y a des pays où l'on restreint la quantité de domaines possédés par une société ou par une institution. Il y a des CCTLD qui ont des normes particulières ou spéciales sur les titulaires des droits, comme une entreprise ou une société, son nom. Il y a des TLD qui exigent un contact administratif local. Je crois que c'est le cas de l'Allemagne. On peut enregistrer un domaine allemand partout dans le monde, mais le contact administratif doit être le cas pour la résolution de litiges, etc. Alors, je répète, tout cela est très différent. Il n'y a pas de norme unique pour tous les CCTLD. Pour ce qui est de la résolution de litiges ou de controverses, vous savez que dans les GTLD, nous avons le système UDRP, le système uniforme de résolution de litiges. Et certains CCTLD respectent ce système. Il y en a qui en ont fait des modifications, mais pas tous utilisent ce système. Il y a certains CCTLD qui utilisent des systèmes d'arbitrage, suivant ce qui est permis par la législation locale. Ici, dans ce pays, l'arbitrage est utilisé en République tchèque pour un bureau d'enregistrement de domaine pouvant enregistrer un domaine, mais qui va payer la société ou la personne qui commence une poursuite par devant les tribunaux. On assiste donc aux tribunaux locaux, tout simplement. Et il y a d'autres questions. Par exemple, .eu est un système tout à fait différent de, pour les résolutions des litiges. Et je crois que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. Heather prend la parole. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Tim Cole qui va vous parler et puis Matt Serlin. Tim Cole prend la parole. J'appartiens au groupe de bureaux d'enregistrement de l'ICAM. Nous avons vérifié l'accréditation des bureaux d'enregistrement ainsi que l'interface continue avec l'ICAM pour ce qui est de l'administration des contrats, etc. Nous allons regarder cette diapo dans quelques instants. Vous avez des documents que l'on a distribués. Et voilà donc notre histoire. On commence au niveau du registre et vers la gauche. Nous voyons que l'histoire commence. Lorsque l'on choisit les différentes options au moment de l'enregistrement du nom, et puis à droite, nous voyons ce qui se passe au moment de l'expiration du nom. Il y a plusieurs personnes qui vont parler des différents segments pour ce qui est des revendeurs ou des services proxy. Et quels sont les services qui peuvent être offerts le long de la vie de ce nom de domaine. Et puis voir ce qui se passe à la fin de la période de vie. Il y a une question sur la manière d'accepter. Nous, les bureaux d'enregistrement, nous acceptons et nous établissons un contrat. Je dois dire que mon équipe vérifie le processus de candidature. Nous avons beaucoup de candidatures. On a reçu plus de 40 questions. Et nous avons aussi des documents de soutien. Tout cela couvre la capacité financière, la manière dont on va gérer l'exploitation, la capacité technique, etc. Et il y a aussi des questions où l'on doit démontrer la connaissance des politiques de consensus. Il faut donc démontrer que s'ils deviennent des bureaux d'enregistrement approuvés, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire. On va faire aussi des vérifications de contexte pour voir ce qui se passe s'il y a un tiers fournisseur faisant ces vérifications dans son propre pays. Que se passe-t-il en cas de faillite, en cas de procès par devant la justice? Et ce qui se passe au niveau des registres d'enregistrement public dans ces sociétés. À la fin de chaque délai, nous faisons une vérification pour renouveler. Voici une révision générale du contrat. Et maintenant, je cède la parole à Matt Serlin, qui est le président du regroupement des bureaux d'enregistrement et qui va vous parler un peu plus de manière un peu plus détaillée. Matt Serlin prend la parole. Merci, Tim. Passons donc à la diapo suivante. Ce que nous voyons ici, c'est la représentation graphique des dépenses des bureaux d'enregistrement accrédités par devant l'ICAN. Et nous voyons là qu'il y a environ 1000 bureaux d'enregistrement accrédités sans tenir compte des revendeurs de ces registres. Voilà pourquoi mon collègue Jeff va vous parler de ces revendeurs. Je crois qu'il faut dire que si l'on analyse la distribution, on peut voir qu'il y a beaucoup d'activités des revendeurs dans des régions où il n'y a pas beaucoup de bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICAN. Jeff va donc nous parler des raisons et des décisions commerciales qui établissent que quelqu'un devienne un revendeur et quel est le profil de ce revendeur. Un autre point que je tiens à mentionner, c'est que il y a beaucoup de modèles de business pour les revendeurs. On va mentionner quelques-uns. Il y a des groupes diversifiés qui, dont l'objectif sont des marchés très spécifiques, des utilisateurs très spécifiques dans d'autres DA. Et comme le bureau d'enregistrement, c'est justement le visage du système de domaine qui va jusqu'à l'utilisateur final. Vous savez que vous pouvez imaginer que tout cela est bien différent. Tim vous a parlé des accords et des processus d'accréditation des bureaux d'enregistrement avec l'ICANN. Et il y a autre chose importante pour en tenir compte, c'est qu'une fois qu'un bureau d'enregistrement est accrédité par l'ICANN, il ne doit pas passer des contrats individuels avec tous les opérateurs de registre. Donc, pas tout bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN vend ou fait le stockage des différents GTLD et il est vrai que pas les CCTLD. On peut donc choisir de vendre seulement .com et .net en tant que domaine et toute combinaison des GTLD disponibles actuellement en créant ou en signant un accord spécifique comme par exemple le cas de .biz. Puis, nous avons le groupe qui représente les bureaux d'enregistrement au sein de l'ICANN. Il y a environ 90 membres qui représentent 75% des GTLD enregistrés à l'heure actuelle. C'est une bonne représentation. Il y a des noms qui sont enregistrés et qui sont faits par les membres des constituantes, des parties prenantes, un regroupement très actif dans les questions de politique au sein de l'ICANN et qui nous affecte au niveau des clients et aussi pour l'exploitation. Ben et Jeff vont parler sur les modèles commerciaux spécifiques au cas où vous souhaiteriez recevoir des informations et nous voulons laisser quelques minutes pour les questions également.
Merci beaucoup, Matt. Je m'appelle Matt Anderson. Je travaille pour le groupe NBT. Nous sommes un bureau d'enregistrement siégeant au Royaume-Uni. Nous travaillons sur beaucoup de modèles, mais nous nous occupons principalement de la gestion de noms de domaine de sociétés commerciales. Il y a des noms de domaine qui sont enregistrés comme des noms Net et Monitor, et qui sont centrés sur les affaires et pas d'autres activités. En général, les bureaux d'enregistrement commerciaux et leur mix de CCTLD, GTLD dans tout le portefeuille des points. Là, il me semble qu'il manque ici une transparence. Le rapport entre le bureau d'enregistrement de société commerciale et son client concerne des contrats assez volumineux qui ont une validité assez longue. Ces clients peuvent représenter des gouvernements, des organismes internationaux. Voilà quelques-uns de nos clients. Par exemple, les gouvernements que vous représentez. Nous offrons le registre d'un domaine et des compagnies semblables à la nôtre propose des produits complémentaires, une suite de services concernant la protection de la marque, ce qui permet de faire un suivi et, si c'est nécessaire, d'entamer un procès par devant la justice pour abus de l'utilisation de la marque, à part le registre de base. Les bureaux d'enregistrement pour les sociétés commerciales s'entretiennent aussi avec les organismes d'application de la loi et s'occupent de la question de la conformité au nom de leurs clients. La prochaine image, s'il vous plaît.
Lorsque nous parlons des bureaux d'enregistrement des consommateurs, nous parlons de bureaux d'enregistrement qui sont en contact avec des petites entreprises et avec des personnes privées, des individus. Ils ont un grand volume de travail. La plupart de ces bureaux d'enregistrement ont un modèle d'affaires, de transactions, et reçoivent des paiements en ligne par PayPal ou par les cartes bancaires. Et ce qu'ils offrent en échange, c'est des paquets de services. Il propose un web hosting ainsi que des modèles de conception de sites web. Cela permet aux petites entreprises de pouvoir travailler en ligne et d'avoir une entreprise en ligne. C'est un rapport un peu plus distant. Cela se fait par des panneaux de contrôle et non pas par un service de gestion utilisé par, comme celui qu'utilisent les bureaux d'enregistrement des entreprises commerciales. Jeff va vous parler maintenant du modèle de revendeur et d'autres modèles. C'est Jeff qui prend la parole. Le terme reseller ou revendeur est un terme où quelques-uns enfin comprennent le modèle. Je veux vous donner donc une vision générale de ce modèle et de leurs interactions. Qu'est-ce qu'un revendeur? Pour le dire de façon simple, il s'agit d'une entité ou parfois il s'agit d'un individu tout simplement qui établit un contrat avec l'ICANN pour vendre des noms de domaine. Et bien des fois, ils vendent des services complémentaires. Le revendeur va utiliser le bureau d'enregistrement pour gérer les noms de domaine. Ce modèle, vous pouvez le voir dans d'autres domaines comme, par exemple, le LP de communication, les services sans fil et d'autres revendeurs qui apparaissent là, qui veulent avoir leur propre infrastructure technique. Étant donné que le bureau d'enregistrement maintient l'infrastructure technique, le revendeur va maintenir ou va s'occuper du rapport avec le client. Ils vont s'entretenir avec leur client, mais ils pourraient externaliser d'autres fonctions telles que, par exemple, le support technique ou les fonctions de paiement. Cela, c'est le revendeur qui en décide selon sa taille, sa spécialité. Il faut que je dise qu'il y a une diversité de présentations dans laquelle, par exemple, on donne un soutien technique à certains revendeurs. Par exemple, pour savoir quelle est la taille de tout ceci, parmi les plus grands bureaux d'enregistrement, il y en a qui ont plus de 5000 registres. Il y en a d'autres qui ont quelques 3000 registres. C'est le cas de l'entreprise où je travaille. C'est un marché assez grand, assez étendu, comme nous l'avons vu sur la carte. Dans certaines régions, il y a très peu de bureaux d'enregistrement accrédités par les CAN. Mais pour les revendeurs qui peuvent fournir des services à ces régions, je ne pourrais pas vous donner le nom spécifique, la plupart des pays de l'Amérique du Sud et de l'Asie qui ne veulent que des registres accrédités par l'ICANN, c'est là que l'on peut acheter des noms de domaine. Et l'on peut parler aux personnes dans leur propre langue et avoir une présence locale sans avoir à aller en Amérique du Nord ou en Europe. Nous allons voir maintenant quels sont les revendeurs des noms de domaine. Il s'agit des portails les plus importants et des moteurs de recherche. Voilà les principaux revendeurs. C'est eux qui offrent des noms de domaine avec d'autres services. Il en va de même pour les entreprises de télécommunications et les fournisseurs d'Internet. Il y en a d'autres qui fournissent le service de hosting et qui vendent des noms de domaine. Mais il y a aussi des revendeurs de noms de domaine au détail qui vendent ces noms de domaine au public et qui décident de ne pas avoir d'eux-mêmes une infrastructure. Il y a enfin des entreprises qui proposent des services supplémentaires ou qui veulent offrir des services de nom de domaine, mais ce n'est pas le principal service qu'elles proposent. Ce sont des sites qui offrent aux gens la gestion de leurs affaires et le nom de domaine. C'est-à-dire ces entreprises ne vont pas organiser une infrastructure. Prochaine question. Pourquoi devenir un revendeur de nom de domaine? Le coût, c'est l'un des thèmes principaux. Ce n'est pas simple de signer et de devenir un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN pour vendre des noms de domaine. Vous savez que c'est une chose importante de l'infrastructure de l'Internet. Il y a des standards et des normes qui doivent être respectées. Il y a une très bonne solution qui ne fonctionne pas parfois. Il faut respecter des normes, des standards. Un bon nombre de gens n'ont pas la capacité économique pour bâtir cette infrastructure et c'est pourquoi ils font confiance au bureau d'enregistrement pour qu'ils leur fournissent ces services. Dans certains GTLD, l'accréditation concerne des frais d'assurance très importants et cela, ce n'est pas que pour les personnes qui se trouvent aux États-Unis et en Europe, mais aussi dans les pays en voie de développement qui n'ont pas la capacité d'avoir des contrats d'assurance aussi importants pour pouvoir commencer à vendre certains GTL. C'est pour cela qu'ils deviennent revendeurs et qu'ils peuvent vendre ou revendre plutôt ces noms de domaine. Des choses simples comme des coûts par nom de domaine très faibles pour avoir des économies d'échelle et un meilleur prix. J'ai écrit ici les honoraires d'ICANN, j'ai marqué ça. Cela signifie qu'il faut suivre les politiques et les questions pour devenir un bureau d'enregistrement. Il faut venir ici dans ces réunions et tout comprendre. Et ça représente un coût très important pour certains revendeurs. Il n'est pas possible de revendre. C'est pour cela qu'ils vont faire confiance au bureau d'enregistrement pour voir les politiques, pour voir quelles sont les politiques de consensus. Et ils nous font confiance en tant que bureau d'enregistrement pour que nous leur expliquions tout cela. Comment interagissent les bureaux d'enregistrement avec les revendeurs? En général, on le fait au moyen d'un API ou par un web store, une boutique web. Magasin web qui pourrait leur créer une marque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les revendeurs entretiennent des rapports avec les clients, mais ils peuvent aussi externaliser d'autres fonctions avec le fournisseur ou avec d'autres ou avec le bureau d'enregistrement. Voilà donc une vision générale du modèle de bureau d'enregistrement et de revendeur. Je sais qu'il y avait certaines questions par rapport aux services de confidentialité de proxy, mais je voudrais vous donner aussi certaines explications sur cela et de façon simple. Le terme des conditions du juice implique que les bureaux d'enregistrement de domaine doivent inclure le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et tout ce qui apparaît publiquement indiqué et qui peut être demandé à tout moment. Certaines personnes ne veulent pas fournir cette information. Elles ne veulent pas que cette information soit facilement accessible. Qu'est-ce qu'elles font donc ces personnes? Elles fournissent leurs propres informations, leurs propres données de contact des fournisseurs dans le WHOIS. Et quand il y a une demande, on redirige cela vers le registrant original. Qui sont ces fournisseurs? En général, c'est les propriétaires des noms de domaine qui achètent pour la première fois un nom de domaine et qui voient cela comme une option. Ils l'achètent par un bureau d'enregistrement de domaine. Une autre manière très courante concerne des bureaux d'avocats, des cabinets d'avocats qui achètent des noms de domaine pour la représentation de leurs clients parce que les clients pourraient faire partie d'une fusion ou d'une acquisition ou parce qu'il y aurait d'autres questions. Donc, le cabinet d'avocats s'occupe de ce type de démarche. Il y a d'autres qui sont revendeurs, des revendeurs qui peuvent offrir leur propre service de confidentialité. Un autre point très grand concerne les spécialistes de la protection des marques. C'est de cela que mes collègues ont déjà parlé. On peut avoir un client qui lance un nouveau produit et qui veut enregistrer son nom de domaine. Mais ils ne veulent pas faire savoir aux gens quel est ce produit pour le moment. C'est pour cela qu'ils sont bureaux d'enregistrement de marques qui fonctionnent comme une protection de la confidentialité. Le dernier point ajouté, c'est qu'il y a certaines personnes qui offrent cela à titre gracieux et d'autres qui le font de façon payante. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur les services de proxy et les services de confidentialité. C'est Heather qui prend la parole. Avant de voir la dernière présentation de Kurt, toi, tu as dit API, c'est un acronyme. Qu'est-ce que cela signifie? C'est Jeff qui prend, pardon, c'est Ben qui prend la parole. Cela veut dire interface de programmation d'application. C'est une modalité facile d'interaction. où l'on peut répondre à beaucoup des appels qui peuvent être reçus. C'est Kurt qui prend la parole. Merci, Heather. Bon, je ne sais pas de combien de temps nous disposons pour les questions, parce que tout aussi bien pour moi que pour mes collègues, je veux rappeler qu'il ne s'agit d'un aperçu général du marché. Il peut y avoir un changement important, majeur, par l'introduction du nouveau GTLD. Nous présupposons, parce que nous anticipons qu'il y aura une modification, une copropriété entre les bureaux d'enregistrement et les registres. Les GTLD, au lieu d'avoir différents contrats, vont avoir un contrat commun. L'idée est d'avoir une protection nouvelle pour les marques et des mesures sur des conduites malveillantes. Et avec l'innovation, nous croyons qu'il y aura aussi des échecs. Enfin, pas des échecs pour certains bureaux d'enregistrement, mais pas dans les registres. Donc, nous avons programmé une protection pour les bureaux d'enregistrement. Pardon, pour les registrants. Et dans le planning du nouveau GTLD, on a considéré aussi d'autres catégories de TLD. Mais à vrai dire, elles sont très difficiles à catégoriser, justement. C'est pour cela que dans certains cas, on va permettre aux employés de s'enregistrer. D'autres vont enregistrer des noms géographiques, des noms commerciaux. Il y en aura qui seront fermés. D'autres ne seront alloués qu'au gouvernement. Les IDN auront des communautés, des TLD de communautés. Il y en aura qui seront utilisés pour les infrastructures. Nous nous sommes déjà habitués à un lexique de noms géographiques ou de marques. Mais nous allons voir de nouveaux types de TLD dans tous les systèmes commerciaux. Voilà donc l'avenir. Je veux vous remercier, vous tous ceux qui ont fait qui ont présenté leurs contributions. Et je demande à Heather de me permettre de commencer les questions-réponses. C'est Heather qui prend la question. Merci, Kurt. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires des membres du GAC? C'est l'Argentine qui demande la parole. C'est l'Argentine qui prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup de la présentation qui a été très utile. J'ai une question. Excusez-moi, je ne me souviens pas de votre nom, enfin. Pour Jack, pour Jeff et pour Tim. J'ai vu la carte et il me semble qu'il y a des noms qui manquent parce qu'en Colombie, il me semble qu'il y a deux bureaux d'enregistrement. Et je ne suis pas très sûre si je suis d'accord avec Jeff par rapport à la communauté, à l'Amérique latine qui reçoit un service de revendeur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais il se peut qu'ils ne soient pas suffisamment nombreux. Et je vois cet écart entre les 300 bureaux d'enregistrement aux États-Unis et au Canada. Le Canada a une population semblable à celle de mon pays. Nous n'en avons qu'un. Donc, ma question est la suivante. Cela ne vous fait pas réfléchir à la cause pour laquelle ce type de choses se produisent? Est-ce que ce ne serait pas trop difficile d'être un bureau d'enregistrement accrédité ou bien on n'a pas besoin de tant de bureaux d'enregistrement accrédités et qu'il suffit d'avoir des revendeurs? Pourquoi donc cet écart si fort en termes géographiques? Et il y a à nouveau une question pour Kurt. Les nouveaux GTLD, je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas compris exactement quel est leur rapport avec les registrants. Et les registres. Est-ce qu'on va vendre au moyen des bureaux d'enregistrement? Tout fera partie d'un modèle intégré. Bon, pour la première question, il y a quelqu'un qui pourrait y répondre. Non, ce n'était qu'une question.
Jeff, tu veux répondre? Pardon, Jeff prend la parole. Bien sûr, je peux répondre. Je suis d'accord. J'aimerais voir... Moi, en tant que vice-président des bureaux d'enregistrement, nous cherchons ce travail de diffusion, qu'il existe plus de bureaux d'enregistrement dans plus de pays. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aimerais bien voir plus de bureaux d'enregistrement de l'Amérique latine. et de cette région-là. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi ces entités ne sont pas des bureaux d'enregistrement. Je crois qu'il s'agit d'un processus difficile. L'ICANN a beaucoup travaillé pour qu'il y ait moins d'échecs des bureaux d'enregistrement. Et je crois que maintenant, ça marche mieux. Il y a des sociétés qui disent, eh bien, nous n'arrivons pas, nous ne pouvons pas le faire, on n'est pas suffisamment grand. Voilà pourquoi on passe chez les revendeurs. Ma société nous donne un très bien service et donc, pour devenir un bureau d'enregistrement, il y a trop d'exigences à remplir. Nous essayons de faire le travail de diffusion ou de sensibilisation dans ces régions. Et il y a un groupe de revendeurs ou de bureaux d'enregistrement accrédités. Mais je crois que on peut dire, eh bien, je suis revendeur, je vends des domaines et puis je deviens un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN. Merci de votre réponse, Jeff. À la deuxième question, je crois que c'est Kurt qui devait répondre. Kurt prend la parole. Merci, Heather. Les GTLD existants, il y a des restrictions pour la co-titularité. Dans le cas de nouveaux GTLD, il n'y a pas de problème dans ce sens. Pour les nouveaux GTLD, il existe un processus où l'on peut demander d'éliminer les restrictions. Heather prend la parole. Merci. J'ai les Pays-Bas en premier lieu. Le représentant des Pays-Bas prend la parole. Ma question a trait à ce que Olga a mentionné concernant sur les espaces des non-génériques. Quels sont les espaces qui sont couverts par des bureaux d'enregistrement accrédités auprès de l'ICANN? La première question a peut-être trait avoir plutôt une impression sur les espaces des noms de domaine. La deuxième, quels sont les bénéfices pour les bureaux d'enregistrement? Quel est le bénéfice qu'ils ont vraiment ou qu'ils peuvent donner à leurs clients? Merci. Heather prend la parole. Bien, nous avons deux questions ici. Je ne sais pas lequel des deux va répondre. L'orateur ne s'identifie pas. Je vais répondre à la deuxième question. Je crois que c'est le bénéfice qu'un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN peut participer du processus. Et je crois que nous parlons là du plus grand bénéfice parce qu'on peut bénéficier, on peut assurer aux clients un haut niveau d'un processus très strict pour arriver à obtenir l'accréditation. Et si le client sait que le bureau d'enregistrement a respecté tout ce processus, ceci donne de la sécurité. Il y a des questions qui, après l'approbation de ce processus, vont bénéficier les utilisateurs. Heather reprend la parole. Merci de votre réponse. Personne ne s'y attendait. L'autre question. Je crois qu'il y a, les gouvernements sont très intéressés pour avoir une évaluation réelle pour voir quelle est la partie de marché qui va chez les bureaux d'enregistrement contre les revendeurs. Je crois qu'il y a là des données importantes pour pouvoir comprendre un peu mieux. Je reviens à la liste d'orateurs. La représentante de la Suède prend la parole. Merci, Heather, et merci de la présentation. C'est vraiment très intéressant de voir tout ce panorama général et savoir qu'il faut s'attendre à de grands changements. Si j'ai bien compris, j'ai une question à poser. Kurt, je crois que tu as mentionné que jusqu'à présent, il n'y avait aucun échec, aucune faillite de bureau d'enregistrement. Mais tu as dit qu'il pourrait y avoir dans l'avenir. Quel est le genre d'échec que tu prévois pour l'avenir? Personnellement, Il existe, à l'heure actuelle, il existe 22 GTLD. Il y en a qui sont très petits et qui vont continuer à être petits, mais qui vont continuer à donner du service à leur clientèle. Il est prévu qu'il va y avoir plus de 1000 GTLD et les faillites sont prévues dans ce contexte. C'est normal lorsqu'il y a beaucoup de nouvelles sociétés et ces nouvelles entités vont quitter les affaires s'ils ne peuvent pas couvrir les coûts. L'ICANN a l'intention d'établir une protection si l'on ne peut pas donner une lettre de crédit pour continuer l'exploitation. L'idée et qu'en ce moment, on va faire la dissolution du registre. Et l'idée, c'est que les registrants puissent atterrir doucement pour ne pas être obligés d'abandonner le business. Mais pourtant, je crois qu'il va y avoir des faillites et il faut se préparer pour cela. Je voulais répondre à la question précédente, dit Heather, ayant trait à la quantité d'enregistrement de noms de domaine chez les revendeurs et les bureaux d'enregistrement et quel était le flux d'argent. Peu importe ce que l'on puisse toucher, parce que c'est très difficile de donner des chiffres en dollars, mais on peut estimer un volume de la quantité de GTLD commercialisée à travers des revendeurs ou des bureaux d'enregistrement accrédités auprès de l'ICANN. Il faudrait voir quels sont les principaux revendeurs, combien de domaines ils possèdent. Et je crois que c'est entre 30 et 150% qui est vendu à travers les revendeurs. Le reste est vendu par les bureaux d'enregistrement directement. Je crois que si l'on étudie un peu plus la question, on peut analyser. Au lieu du montant en dollars, on peut parler en termes de volume d'enregistrement. Dans ce sens, les enregistrements atteindraient environ 30 et 50%. Heather prend la parole. L'Australie a la parole, pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci de la présentation. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière et voir la séance à partir d'une autre perspective, à partir de l'expérience du Costa Rica entre le Conseil, le GAC et la fonction du respect contractuel de l'ICANN. Pour parler de la série suivante de débats, parce que nous avons besoin des informations du Conseil d'administration sur les relations contractuelles dans l'industrie. Moi, je poserai la question suivante. Quel est le rôle de l'ICANN au sein de l'industrie? Parce que c'est très utile d'avoir cette discussion et savoir quelle est la base, où en sommes-nous? Si on dit que 30 ou 50% des enregistrements sont faits par les revendeurs, j'aimerais savoir, premièrement, où est la responsabilité et la reddition des comptes au sein du modèle des revendeurs? Parce que l'ICANN a dit qu'il allait y avoir des contrats directs avec les registres et avec les bureaux d'enregistrement. Je crois que ce n'est pas pareil avec les revendeurs. Les revendeurs signent leur contrat avec les bureaux d'enregistrement. Je voudrais voir donc, c'est-à-dire si on dit qu'il y a des milliers de revendeurs qui n'ont pas de contrat et on dit en même temps que l'ICANN donne l'accréditation aux bureaux d'enregistrement, je ne sais pas si je comprends bien. Je peux dire que les bureaux d'enregistrement ont la même activité avec des milliers de revendeurs et la procédure est la même parce que c'est une préoccupation pour l'ICANN. Je voudrais que les membres du Conseil ici présents puissent le dire parce que l'industrie au niveau mondial a été concentrée dans les contrats avec les bureaux d'enregistrement, avec les registres, notamment maintenant, mais la moitié des enregistrements de domaine viennent des revendeurs. Quelle est donc la faisabilité et la visibilité de l'ICANN pour vérifier le respect de tous ces revendeurs? Heather prend la parole. Merci, l'Australie. Vous voulez répondre à cette question? Jeff prend la parole. Merci de votre question. En premier lieu, je voudrais commencer en disant que, depuis mon point de vue, d'après ce que moi-même j'ai vu, il n'y a pas une évidence concrète que les revendeurs créent plus de problèmes de respect que les bureaux d'enregistrement. On parle beaucoup des revendeurs, mais je dois dire que je n'ai pas vu beaucoup de problèmes avec les revendeurs, pas plus qu'avec les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN. Pour vous donner une réponse directe sur la responsabilité, eh bien, c'est nous, les bureaux d'enregistrement, qui avons la responsabilité. Lorsque nous passons le contrat avec les revendeurs et on leur permet de vendre des domaines, nous ne faisons pas la délégation. Nous, on est le responsable de respecter le contrat avec l'ICANN. Et nous savons que nous savons les responsables parce que notre contrat établit justement que c'est nous les revendeurs. Et s'il y a un revendeur qui fait des choses qui ne sont pas correctes, alors nous, les bureaux d'enregistrement, on est les responsables et nous devons nous occuper de gérer la situation. C'est nous les responsables. Nous savons que c'est nous qui avons le contrat avec l'ICANN et qu'en dernière instance, c'est nous les responsables. Heather prend la parole. Très bien. Nous allons passer la question au Conseil d'administration. Portugal, Allemagne, Royaume-Uni et les États-Unis. En premier lieu, merci beaucoup, dit le Portugal. De la taxonomie du marché du DNS parce que nous avons pu voir un panorama, on a vu le paysage général pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je pourrais dire aussi que je m'attendais à que à partir de ces descriptions, nous soyons en mesure de parler des fonctions régulatoires de ce marché. Je n'ai pas vu grand-chose dans les présentations. On a parlé de licences et de contrats, bien qu'on n'a pas beaucoup parlé des fonctions des contrats. On a entendu parler sur l'adoption des normes ou de règles ou la protection des consommateurs ou des utilisateurs. Des audits et d'évaluation, monitorage et traitement, indicateurs de traitement en utilisant des enquêtes. Pour analyser les résultats de ces fonctions, je me demande donc pourquoi on n'entend pas parler de ça. On suppose que l'audience connaît bien ces éléments, le GAC, je veux dire, ou c'est parce que c'est pas si facile que ça de présenter toutes ces données, qu'il faut du travail supplémentaire pour présenter ce type de données. Il va y avoir d'autres sessions où l'on va aborder ces questions. J'aimerais entendre ces informations sur les questions que je viens de mentionner. Merci. Le Portugal, l'Allemagne a la parole. Merci, Madame la Présidente. L'Allemagne a la parole. Pour ce qui est du modèle de bureau d'enregistrement et de registre présenté, je me demande si ce modèle ne limite pas les nouvelles sociétés, les nouvelles affaires, les innovations dans le marché des nouveaux GTLD. Je pense notamment à la valeur ajoutée, la valeur que l'on peut ajouter au nouveau domaine. Et en tant que modèle, nous savons que cela est préparé pour un autre type de marché. Avant le début de l'ICANN, il y a eu d'autres enjeux au niveau du marché et je crois que l'on se trouve maintenant dans une situation dans laquelle nous allons vers un marché. Et je me demande si la pratique du passé a été un peu restrictive par rapport aux nouveaux services. Deuxièmement, je dois dire que nous trouvons aussi des communautés plus petites qui ont demandé des nouveaux GTLD. Et c'est peut-être dans le sens de l'Argentine, n'est-ce pas? Et voir si ces communautés vont pouvoir trouver des bureaux d'enregistrement capables de vendre des domaines pour eux, de leur vendre des domaines. Je pense à des sociétés plus petites qui auront peut-être des problèmes dans ce sens. Ben, la question suivante. Et lié à la comparaison entre les CCTLD classiques, parce que nous savons que pour ce qui est des restrictions, les développements de la dernière décennie ont indiqué que les restrictions étaient annulées et qu'il allait y avoir de nouvelles restrictions. Je demande, dans l'environnement des nouveaux GTLD, je pense à certaines exigences pouvant apparaître par rapport aux politiques publiques. Par exemple, si on parle d'un nouveau GTLD qui est présenté au marché mais qui fonctionne d'un point de vue de politique publique, pas très bien. On va demander au registre de changer la politique de registre, c'est-à-dire est-il possible que ceci ait lieu ou ceci compliquerait davantage le marché? Parce que ce n'est pas seulement le registre qui est concerné, mais aussi les bureaux d'enregistrement et les revendeurs. Heather prend la parole. Merci, l'Allemagne. Vous voulez répondre? Kurt Pitts a la parole. Oui, je peux répondre partiellement. C'est des questions très profondes. Je considère que le marché actuel peut devenir un modèle d'affaires très restrictif. Et on a accordé que les restrictions sur la cotitularité pouvaient être annulées. Et si l'on évalue cette question, j'ai répondu auparavant à la question du Portugal, l'accord des registraires et des registres qui assure des protections aux consommateurs en établissant certaines obligations pour les registres et les bureaux d'enregistrement. Pour la présentation, pour le lancement des nouveaux GTLD, il sera compliqué de maintenir le même type de protection. Et les marchés sont toujours là. Et il faudrait conserver ces protections. Mais vous voulez discuter quelque chose dont on va parler plus tard. Deuxièmement, on a demandé que le nouveau GTLD change les questions liées à l'enregistrement et je crois, et c'est mon avis à moi, c'est une spéculation, disons, les définitions du GAC affectent peut-être tous les GTLD. Les politiques peuvent être écrites pour affecter le registre d'un seul TLD. Et vous avez suggéré que cela pourrait être possible. Voilà donc une discussion dont il faudrait tenir compte. Heather prend la parole. Merci, Kurt. Royaume-Uni, États-Unis, Kenya, et puis je crois que nous allons clôturer la séance. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réunion d'experts dans le marché. Je crois que c'est intéressant de traiter des questions concernant l'impact des nouveaux GTLD ainsi que d'explorer ce qui va se passer dans l'avenir. Nous prévoyons tous que ce sera une bonne occasion pour l'innovation et pour les nouveaux modèles commerciaux, etc. Voilà donc pourquoi le point qui a été mentionné est très important pour nous. C'est très intéressant. Je voudrais revenir à ce rapport entre les bureaux d'enregistrement et les revendeurs. Avant, j'ai mentionné, pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations sur l'application de la loi et les négociations entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement, là, il existe le problème de la responsabilité de la reddition des comptes. Et ma question est liée à tout cela. Je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue pour qu'il pose la question. Bonjour. L'orateur ne s'identifie pas. Je remercie Madame la Présidente de me donner la parole. Je voudrais partager une frustration que nous, à l'équipe de négociation d'application de la loi, nous avons eue dans ce sens. S'il y a quelque chose qui se passe avec un nom de domaine et nous allons chez les bureaux d'enregistrement et nous leur disons « c'est vous qui avez fait ça », alors, on peut demander qui a le nom de domaine que vous avez payé. Qui a payé? Eh bien, je dirais, nous sommes un bureau d'enregistrement général. Il faudrait voir un revendeur pour obtenir ces informations. Mais bien des fois, nous pouvons parler avec les revendeurs. Des fois, ils répondent, des fois, non. Mais je suis étonnée ou surpris. Et Jeff a dit très clairement cela. Nous le disons également très clairement dans le RAA que nous parlons avec le bureau d'enregistrement, avec le registrant, pardon. À vrai dire, le registrant n'a pas cette information à sa disposition et bien des fois, ils ne peuvent pas obtenir ces informations et les organismes d'application de la loi non plus. Je veux établir un lien entre les propositions de Jeff et de Marc parce qu'il s'agit d'une question quotidienne pour la question concernant le respect de la loi. Je voudrais donner une réponse rapide à l'autre personne.
Je ne pense pas que nous ne respections pas un ordre judiciaire si on nous demande de fournir une information. Et comme une information, enfin, une anecdote, il y a bien sûr un ordre judiciaire. Nous leur donnons toujours cette information. C'est pour cela que nous devons marquer une limite et nous devons dire notre bureau d'enregistrement ne respecte pas les ordres judiciaires. Si nous essayons d'aider, nous ne pouvons pas toujours le faire. Parce que bien des fois, l'application de la loi dans d'autres pays, ou bien il y a des gens qui nous demandent de l'information, mais en ce qui concerne les ordres judiciaires, nous les respectons, nous y répondons. Je crois que ce qui est important ici, c'est qu'il faut rappeler que la responsabilité que nous avons concerne la relation contractuelle avec l'ICANN et la conformité contractuelle. Je ne pense pas que l'information ne fait pas partie, cette information ne fait pas partie de la conformité contractuelle. Et je ne sais pas si je comprends très bien cette question de la demande d'information. Je pense que cela ne se trouve pas nécessairement dans le cadre de la conformité contractuelle. Merci, dit Madame la Présidente. Je voudrais demander... Est-ce que l'on comprend que le bureau d'enregistrement possède l'information et sur quelle base on dit ce que l'on vient de dire? Sur quelle base on va fournir cette information qui serait demandée? Ce que Bénédicte a dit, c'est que l'on ne peut pas obtenir les données ou bien que le revendeur n'en dispose pas. Réponse, Jeff, je ne serai pas tellement sûr que le bureau d'enregistrement n'en dispose pas. Mais comme je vous l'ai dit, il y a différents modèles et différents moments auxquels le revendeur a ce rapport avec le client. Et c'est cela qu'ils obtiennent de leur client. Et ce rapport un à un, bien des fois, fait que le revendeur ne veut pas partager cette information. Quand on lui dit, écoutez, fournissez-nous cette information, bien des fois, ils ne veulent pas partager cela avec nous. Bien des fois, c'est des sociétés commerciales très grandes qui disent, nous ne voulons pas partager cette information avec vous. Mais ils doivent le faire lorsqu'il y a un ordre judiciaire. C'est sûr qu'ils vont respecter un ordre judiciaire. Donc, c'est généralement leur revendeur qui établit ce rapport. Merci beaucoup, les États-Unis. C'est les États-Unis qui prennent la parole Je voudrais rejoindre mes collègues pour exprimer notre reconnaissance aux orateurs qui nous ont permis de mieux comprendre le système. Je voudrais aussi me joindre aux commentaires de mes collègues en la connexion entre l'Australie et le Portugal. Notre intérêt principal a été présenté très clairement lors du communiqué du Costa Rica. Nous voulons mieux comprendre le rapport existant entre l'autorité d'autorégulation de l'ICANN qui se trouve dans les contrats et dans les rapports que vous avez avec les bureaux d'enregistrement. Et c'est là que nous devons nous centrer. Parce que maintenant, nous parlons des chiffres. Et je vais démontrer là mon ignorance. Je ne suis pas un spécialiste en économie. Parce que nous avons à peu près un millier de bureaux d'enregistrement accrédités et un bon nombre d'entre eux nous disent qu'ils ne sont pas différents. Il y en a qui sont membres de la même famille et nous avons quelques 8000 revendeurs. Donc, dans une perspective de gouvernement, si nous commençons à analyser ces chiffres de façon différente, nous commençons à dire, OK, il y a 8000 joueurs sur le marché qui doivent respecter une question contractuelle, quelle que soit la disposition, la clause contractuelle dont il s'agisse ou quelle puisse être le manque d'adéquation de cette clause. Et nous avons ensuite 1000 ou plus de 1000 entités qui ne sont pas assujetties par des dispositions ou par des contrats. Ceci nous donne une idée. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui commencent à travailler directement avec nos consommateurs partout dans le monde. Ils peuvent, en fait, mais ils ne le font pas. Ils ne parviennent à obtenir aucune disposition contractuelle. Et cela m'inquiète et je vais encore montrer mon ignorance. Parce qu'il y a certains points qui me montrent, cela montre que je ne sais pas s'il y a l'entrée de nouveaux concurrents. Je voudrais savoir donc quels sont ceux qui imposent ces coûts très élevés pour les assurances. Est-ce que cela fait partie des conditions pour devenir un bureau d'enregistrement accrédité? C'est quelque chose qui se fait à l'échelle nationale ou quoi? Je ne connais pas la réponse à cela. Ce serait très utile de savoir pourquoi et d'où cela provient qu'il y ait des coûts très élevés. Parce que certains d'entre nous dans les gouvernements, si nous avons le privilège de vendre quelque chose à un consommateur, cela comprend aussi une responsabilité. Donc nous essayons de comprendre exactement où se trouve cet équilibre. Mais ce qui est encore plus important, cela signifie que nous sommes consultants du conseil d'administration de l'ICANN et nous essayons de voir quelles sont les recommandations que nous vous donnons au sein de l'accord. Nous voulons savoir quel est l'accord, quelle est la portée de ce que vous êtes en train d'expliquer, de mentionner. Nous avons besoin de nous centrer sur ce qui est dans le cadre de la portée de votre action. Cela nous fait comprendre que nous n'allons pas vous présenter une série de recommandations pour améliorer le RRA. Il y a donc plusieurs changements que nous voudrions voir être appliqués. Je crois que cet appétit, ce besoin d'aller en profondeur ou de façon plus approfondie sur le marché que nous ne connaissons pas, ce serait utile de savoir si l'ICANN sait combien de revendeurs il y a. Savons-nous quels bureaux d'enregistrement doivent être rendus responsables pour le comportement de ces revendeurs? Est-ce que nous avons cette information? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez le nom de ce revendeur? Est-ce que vous faites une traçabilité? Est-ce que vous savez comment sont ces contrats? C'est pourquoi je vous le demande. Je sais que cela déclenche la question de dire que nous avons besoin de données factuelles pour avoir beaucoup plus de précision. Merci beaucoup. C'est Heather qui prend la parole et Kenny a la parole maintenant. Kenya a la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier nos collègues de ces présentations. Et pour continuer, pour reprendre ce que disait mon collègue des États-Unis, je voudrais mettre l'accent sur cette question de la recherche, sur la question de la reddition des comptes et de la responsabilité, les revendeurs et en particulier les chiffres. Mais je voudrais aussi revenir sur les questions et sur l'initiale de mes collègues du Mexique. Et je voudrais tirer au clair
Enfin, que nous avons des, nous sommes inquiets de nouveaux GT, de savoir le nombre de nouveaux TLD, GTLD qui sont concentrés sur une nouvelle région. Parce que lorsqu'on explore de nouveaux modèles d'affaires, comme le suggérait mon collègue de l'Allemagne, il faut aussi faire des recherches, explorer la manière dont l'ICANN pourrait se rendre sur les régions qui sont les moins actives, en particulier lorsqu'on considère comment sont diversifiés les nouveaux TLD. Est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle division numérique? Je pense que les revendeurs et les nouveaux GTLD devraient être adaptés à ce, devraient s'adapter à cela. C'est, merci beaucoup. C'est Heather qui parle. Merci beaucoup, le Kenya. Je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Un petit commentaire très bref encore. C'est Jeff qui parle. Je veux répondre aux États-Unis. Ma question est la suivante. Est-ce que nous avons ces 1000 qui sont enregistrés par le RAA et quels sont les revendeurs ou pas? Je ne voudrais pas que nous ayons cette image. C'est-à-dire, une fois qu'on devient un revendeur accrédité, c'est comme le Wild West. Est-ce qu'on vend cela directement au bureau d'enregistrement ou en canal d'un revendeur? Ils sont tous, ils doivent tous répondre au RAA. Je sais que c'est un débat séparé sur lequel il faut, mais moi j'aimerais bien pouvoir parler de cela avec les membres du GAC et d'autres représentants qui sont ici et leur expliquer, enfin, comment on peut vous donner davantage d'informations et transformer ce document en quelque chose de plus efficace pour le RRA et que tout le monde puisse bien comprendre. Je voudrais dire que tous les noms de domaines enregistrés dans les nouveaux GTLD, nous savons quels sont les bureaux d'enregistrement et nous savons quels sont les responsables à ce point. Merci, Jeff. C'est Heather qui prend la parole. Il est clair qu'il s'agit de questions préoccupantes. J'estime que nous devons continuer à analyser ces points et nous devons continuer à recevoir des données, des faits, des informations pour que nous puissions améliorer notre analyse sur les thèmes vraiment problématiques et de la façon dont on considère le marché. Je crois que cela vise le cœur de la question quant au rôle de l'ICANN sur le marché. Dans sa nature d'autorégulation ou la nature d'autorégulation de cette industrie. Je veux remercier tous ceux qui nous ont fait des présentations aujourd'hui et qui nous ont donné toutes ces données. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants et nous espérons pouvoir continuer à travailler avec cette même orientation. Nous allons maintenant travailler dans un échange du CAC avec un autre organisme. Nous allons faire une pause de 10 minutes pour essayons de respecter ce temps pour que nous puissions avoir une réunion avec le Conseil. Merci beaucoup. 10 minutes.